conférences et débats.
Je suis ravie de vous retrouver si nombreux, effectivement, pour cette avant-dernière rencontre autour des 6 nominés au prix des lecteurs de la ville de Lausanne. Et je suis ravie d'avoir l'occasion de vous dire qu'on va parler d'un auteur et d'un livre absolument fantastique, Croix de bois, croix de fer. C'est le nom du roman dont il va être question aujourd'hui. Croix de bois, croix de fer, ça plonge dans la vie de deux frères. L'un est mort, l'autre est vivant. Celui qui est mort était missionnaire et il est mort en laissant une légende, une sorte de légende de saint africain. Et puis le cadet, eh ben, on l'a convié dans un colloque pour parler de ce frère aîné. Alors ça va peut-être être l'occasion de régler certains comptes familiaux. Et puis Thomas Sandeau est un garçon épatant. Je suis ravie que vous ayez l'occasion ce matin de le découvrir un peu mieux. Il a écrit autant sur l'inspecteur Derrick, sur Alain Lepresse, le chansonnier, sur l'homéopathie, et puis aussi des romans, 7, dont le premier, 99 minimes, est paru il y a 20 ans déjà aux éditions de l'Âge d'Homme. Il est venu de La Chaux-de-Fonds ce matin, où je peux vous dire qu'il neige beaucoup plus qu'ici. Merci d'accueillir Thomas Sandeau. Voilà, voilà. Thomas Sandeau, bonjour.
Bonjour.
Voilà. Ça va, le micro est bien installé.
J'aurais dû le cacher sur la chemise.
Non, mais on peut aussi simplement le poser sur la table, hein, si on veut.
Mais après, il y aura ce truc comme ça, et ça va être très moche sur le clip vidéo qui sera sur le site de la ville de Lausanne.
Tout à fait. Ah, c'est bien les écrivains qui pensent jusqu'au moindre détail du service après-vente. Voilà, parfait. Alors, merci de nous rejoindre depuis La Chaux-de-Fonds. Effectivement, je pense que de nos auteurs sélectionnés au prix des lecteurs, vous êtes le plus excentré de Lausanne. Donc, ouais, c'est dire. Alors, moi, on commence toujours parce que nous, ici à Lausanne, on sait ce qu'on fait le samedi matin. On descend au marché, on est à Saint-François et puis on vient ici au Cercle. Alors, vous, le samedi matin, c'est quoi habituellement femmes, enfants, hein, deux enfants, 11 ans et...
Et 17,
oui.
Je ne les vois pas voilà. Très tôt parce qu'ils dorment.
Ouais. Mais le samedi matin, hein, c'est marché à La Chaux-de-Fonds ou...
Oui, non, mais alors voilà. Moi, généralement, je travaille souvent le samedi matin. Je fais ce que tu fais à la bibliothèque de la ville, c'est-à-dire j'accueille j'anime des rencontres avec des écrivains. Alors nous, on mange avant. Ça s'appelle les croissants littéraires.
Ah ouais.
Donc on boit le café, on prend les croissants, et puis ensuite on écoute des écrivains, ou bien il y a des rencontres musicales.
Ah ouais.
C'est une petite partie. Enfin, c'est en fait, pour le dire très vite, c'est mon seul job fixe. C'est un 20% de...
Voilà, donc la médiation culturelle à la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, c'est ça. Et donc le samedi matin, ça se passe aussi.
C'est souvent le samedi matin.
Oh oui. Ben oui, il faut croire que c'est un bon moment,
c'est
quoi.
Un très bon
voilà,
moment.
Ouais. Alors, on va commencer par parler de ce roman, Croix de bois, croix de fer, qui est paru ce printemps, enfin le printemps dernier aux éditions Grasset. Alors, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui met en scène ses deux frères et qui plonge dans l'univers missionnaire protestant en Afrique de ces 10, 20 et même ensuite 40 dernières années, puisque les parents de ces deux frères étaient eux-mêmes missionnaires en Afrique, avant de revenir s'établir en Suisse romande. Alors, Croix de bois, croix de fer est parti de quoi ? De quelle envie ? Une plongée dans ton propre héritage familial, où on trouve des tantes, des cousines qui elles-mêmes ont passé quelque temps en Afrique à tenter de dispenser la bonne parole ?
Alors, c'est un mélange de tout cela, parce que le métier d'écrivain, c'est essayer de prendre un petit peu en soi et en faire quelque chose qui est de l'ordre de la fiction, c'est-à-dire dépasser le soi, parce que le soi, finalement, c'est du pur témoignage, ça a un intérêt, mais c'est pas un roman, c'est pas de la narration, c'est pas de la fiction. Donc, effectivement, il y a une partie qui vient de moi, je pense qu'on aura de ma famille, surtout. On aura l'occasion d'y revenir. Mais la question, c'était d'en faire un objet qui ne soit pas un simple témoignage, qui ne soit pas non plus quelque chose d'ordre sociologique, qui ne soit pas historique, purement factuel. C'était de faire un roman autour d'un thème, effectivement, qui est la mission, parce que c'est un thème qui n'a pas été développé quasiment pas sous cette forme-là. Et puis, mais pas que ça, parce qu'au fond, je le dis tout de suite, pour tout de suite, c'est pas un livre sur la religion, autour de la religion. Pour moi, toutes ces questions-là sont plutôt le décor de l'histoire humaine, la confrontation entre ces deux frères, pardon, et de ce que cette confrontation met en avant. C'est surtout ça qui est au cœur du mot-clé qui reviendra plusieurs fois, c'est le mot altruisme. En fait, l'altruisme, la religion et le missionnariat et la forme de coopération servent plutôt de décor. L'Afrique est plutôt le décor, comme le Haut-Jura est un décor, comme ça.
Le procédé narratif est vraiment très très bien trouvé. Enfin, je veux dire, il y a du suspense malgré le sujet qui semble assez sérieux, puisque ce frère cadet est invité dans ce colloque, espèce de vieil hôtel décati, enfin un peu décati dans l'Oberland bernois, deux jours de colloque, et puis les interventions se succèdent, et à chaque fois le narrateur replonge dans ses propres souvenirs d'enfance, et on attend le moment où on va enfin lui donner la parole et où on se dit, mais qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va, dans le fond, faire exploser l'espèce d'ambiance à la fois bon enfant et presque hagiographique autour de son frère, ou pas? Et, alors, évidemment qu'il faut le lire jusqu'à la fin pour savoir ce qui va se passer et s'il va procéder au fameux règlement de compte qu'on attend depuis le début. Mais d'où... Voilà, d'où...
Qu'est-ce qu'il s'est déplacé. Donc, c'est bien ça l'enjeu du narrateur ou de cette histoire-là, c'est que donc le protagoniste principal est invité dans ce colloque, mais au début il refuse d'y aller puisqu'il est fâché avec son frère décédé, mais disons il ne tolère pas vraiment l'image. C'est assez compliqué au sens où il y a l'image que le frère s'est construit lui-même avec une autobiographie que le narrateur, le protagoniste considère comme tout à fait exagérément fausse. Autobiographie, c'est forcément faux. Autobiographie
aussi. Très lisse.
Mais là,
très...
il en a rajouté. Mais surtout, le frère décédé, dans ce livre, a utilisé la vie du protagoniste comme contre-exemple. Donc, il y a un contentieux terrible entre ces deux frères. Donc, au moment où le protagoniste va être approché par les organisateurs du colloque, d'abord, il va dire non, je ne vais pas y aller. Mon frère fait partie de mon passé, enfin voilà, je ne vais pas aller. Et là, tout à coup, il réfléchit, il dit, mais c'est peut-être l'occasion de corriger cette image, c'est peut-être l'occasion, pas vraiment de régler des comptes, mais de corriger cette image. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, ça ne va pas du tout se passer comme prévu, parce qu'il y a plein d'ennuis, il pleut, ils sont enfermés, ils sont... C'est le roman. Enfin, c'est...
Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'emparer de ce thème? C'était l'espèce de règlement de compte familial, parce qu'on a tous des envies de règlement de compte familiaux, j'imagine. D'autres, et quand en plus on a la maîtrise de l'écrit, qu'on peut le faire dans un roman, voilà, pourquoi pas explorer ça? Ou est-ce que c'était l'envie aussi de se plonger dans ce milieu du protestantisme roman, dans toutes ces entreprises missionnaire. C'est une page d'histoire culturelle romande passionnante, par ailleurs, qu'on découvre à travers ce roman.
Oui. Alors, il faut que je vous raconte un peu l'histoire de l'histoire, pour bien comprendre comment ça s'est mis en place. Mon éditrice décédée l'an dernier, qui s'appelait Ariane Fasquel, qui était directrice de collection, en parenthèse étrangère,
donc chez Grasset.
Bien, je la voyais régulièrement à Paris pour manger et discuter, refaire le monde un petit peu. Et puis, évidemment, une fois qu'on a parlé de littérature, on parle un petit peu de nous. Et souvent, elle me disait, mais Thomas, vous devriez écrire un livre sur votre famille. Et moi, j'ai toujours dit, jamais. Évidemment, c'est... le premier mot, c'est casse-gueule, mais enfin, vous voyez bien ce que je veux dire, c'est piégeux. Oui.
Mais pourquoi est-ce qu'elle demandait ça? Qu'est-ce que tu lui avais déjà, dans le fond, raconté d'histoire familiale?
Alors, j'avais raconté des choses qui me paraissaient tout à fait anodines. J'avais raconté que j'avais une sœur pasteur, que j'avais des tantes qui étaient missionnaires, que j'avais un père qui faisait la tournée du quartier pour distribuer des petits journaux de bonnes paroles. Et moi, je le disais simplement comme ça parce que pour moi, c'est des choses tout à fait naturelles.
Mais vu de Paris, c'était très exotique.
Alors, très, très exotique, apparemment. Ou en tout cas, exotique, je ne sais pas. Mais oui, peut-être. En tout cas, elle voyait quelque chose, elle trouvait qu'il y avait une matière que je devais creuser. J'ai refusé, très clairement. Et on s'est vus, on se voyait plusieurs fois par année. À peu près à chaque fois, à l'heure du café. Il disait, Thomas, ce livre sur votre famille. Et puis, voilà. C'était... Et puis, chaque fois, je répondais la même chose. Non, parce que je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Et puis, ensuite, il se passe des choses, c'est qu'un éditrice, une éditrice, un éditeur qui fait son travail correctement, il est là aussi pour encourager l'auteur, si on peut dire comme ça, il l'accompagne. Des fois, ça peut être violent. Alors, Ariane Fasquel, elle me dit, vous travaillez sur quoi? Et je disais, ah, bah, alors, moi, j'ai un sujet, c'est comme ça, c'est l'histoire de... Puis elle faisait... Et je savais que c'était mort. Et c'était... Et dans le TGV, j'effaçais déjà mes fichiers. Parce que c'était terminé. En ce moment, mais elle le disait parce qu'elle savait ce que les autres publiaient. Elle connaissait tout. Elle savait ce qui... C'était quelqu'un qui avait une sensibilité terrible. Donc forcément, que ces deux injonctions, des fois, ce que j'avais envie, moi, de faire... Et puis, la demande, je réponds un peu longuement, mais
Non. Tu es aujourd'hui chez toi.
C'est une question de Fasquel qui disait, mais ta famille. Alors, pourquoi en fait, il s'est passé beaucoup d'années parce que j'ai réfléchi et il fallait absolument que je trouve la solution narrative pour aborder ce sujet. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi ce livre a cette forme-là. La solution, je l'ai trouvée au moment où je me suis dit, je vais écrire un livre qui va parler d'un livre qui fait mal. Je vais parler d'un livre qui n'est pas forcément bien compris par ceux qui le reçoivent, qui le lisent. Et comme ça, évidemment, stratégiquement, pour moi, vous, le lecteur, ma famille, par exemple, saura immédiatement que j'ai été conscient qu'il y avait une sorte de double jeu. Pas un double jeu, il y avait une mise en abîme, une première mise en abîme. C'est pour ça qu'au cœur de ce livre, il y a cette espèce de fausse autobiographie du frère décédé, de ce missionnaire.
Mais qui reste un mystère. Dans le fond, on n'en lit pas d'extrait. Non, il est juste, c'est comme une espèce d'ombre qui plane.
Mais ce qu'on sait, c'est que ça fait des ravages. Et alors moi, comme ça, je pouvais avancer dans ce récit, en guillemets, protégé en tant qu'auteur. Parce que je mettais carte sur table. Je disais, vous savez... vous, lecteur, qu'on va parler de mensonges, de trahison, de choses comme ça, au-delà du thème principal. Donc il y avait cette espèce de couche, cette espèce de première mise en abyme. Et une fois que j'ai trouvé cette solution narrative, ben alors après je me suis mis au travail, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai rassemblé énormément de documentation, parce que c'est une des choses que j'avais dans mon...
J'ai presque une année de recherche documentaire sur...
J'aurais pu faire beaucoup plus, parce que c'est passionnant. C'est l'histoire du missionnariat catholique, protestant ou autre, dans les différentes parties d'Afrique ou du monde, en Asie, tout ce qui est lié à l'histoire de la région. Tu as dit canton de Neuchâtel, c'est vrai qu'il y a un noyau protestant très dur, Neuchâtelois, mais ce n'étaient pas les seuls qui envoyaient ensuite. Et toutes ces choses-là. Et puis, ça m'a permis aussi d'interroger, forcément, mon parcours dans ma famille, parce que comme je l'ai dit avant, je ne sais pas si on l'a dit très clairement, mais moi j'ai un peu le mouton noir dans la famille, parce que moi mes cousines, j'ai beaucoup de cousines, oui j'ai beaucoup de cousines parce que c'est une famille où on a fait beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de cousines qui sont...
Donc il n'y a pas que les catholiques, c'est ça?
Non, j'ai le milieu évangélique... Je fais juste une parenthèse, j'ai aucun problème avec ma famille.
Et maintenant, est-ce qu'eux ont problème avec toi depuis ce livre?
Aucun. Et c'est là que je suis content d'avoir pris le temps de poser les choses. Non, alors donc, mais des cousines, des cousins qui sont partis en Afrique, qui sont partis dans les banlieues de Lyon, qui sont partis. Qui ont fait, voilà, mon père était instituteur, donc dans la quatrième de couverture, on dit. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie si on n'est pas ni médecin, ni instituteur, et en gros, sous-entendu, ni pasteur. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est évidemment une question que je me pose tous les matins. Qu'est-ce que je fais, moi, dans la vie? Parce qu'écrivain, c'est pas évident. C'est pas...
C'est-à-dire que tu...
pour le monde n'est pas évident en première.
Donc tu culpabilises.
Bien sûr, moi j'ai un... C'est terrible. Mais c'est pas grave.
Ouais.
Ouais. Non, mais bien sûr, il y a une culpabilité quand on est entouré par sa famille de gens qui s'investissent pour autrui.
Oui.
Moi, les livres, je sais bien que ce n'est pas inutile, les livres. Moi, je ne le ferai pas. Mais l'immédiateté n'est pas claire.
Oui, bah, le narrateur raconte d'ailleurs une jeunesse absolument normale de jeune adolescent, enfin d'adolescent des années 80. Hein, tu es né en 67. Mais le simple fait, je sais pas, d'aller au cinéma, de faire d'écouter des disques, faisait de lui effectivement le mouton noir de la famille, simplement parce qu'il n'était pas en recherche d'une sorte de pureté, d'altruisme et de vie modèle. C'est un peu ta propre jeunesse.
Oui, un peu, mais vous ne la retrouverez pas là-dedans. Il n'y a pas ma famille là-dedans, en fait. Il y a, elle est partout, mais pas explicite. Il n'y a pas non plus...
De toute manière, tu as eu un père instituteur, une mère infirmière, qui eux-mêmes n'étaient pas missionnaires. Ni coopérants, ni missionnaires.
Non, mais il y a eu d'autres choses qu'ils ont fait qui ressemblent à d'autres choses que certains personnages font. Vous savez, quand on écrit, enfin, c'est tout ça. J'ai toujours une espèce de métaphore, de savoir. Il y a les savoirs chauds qui viennent de soi, c'est ce qu'on puise en soi. Il y a les savoirs tièdes, c'est ceux qu'on lit, qu'on entend, qui viennent de vous, de nos conversations. Et puis il y a les savoirs un peu plus froids, qui sont plus techniques, qui sont plus universitaires. Et puis le rôle de l'auteur, comme je le conçois, c'est de mélanger tout ça afin qu'il n'y ait plus de scories, qu'on ne voit plus ce qui vient parce que sinon, si on est dans les savoirs tièdes, on fait par exemple journaliste, c'est parfait. Si on reste que vers son nombril, on fait un témoignage, c'est parfait. Si on veut faire une histoire du missionnariat, ou bien une histoire de l'altruisme, ou une histoire de la littérature, ou une histoire de la traduction, parce qu'il y a beaucoup de questions de traduction là-dedans aussi, eh bien, on le fait. Mais quand on veut faire acte de fiction, quand on se met dans la peau du romancier, alors il faut gommer tout ça, il faut que tout soit mélangé. Alors, ça, c'est une longue parenthèse. Alors, oui, parce que forcément, moi, je viens de ce milieu, et c'est peut-être là que Ariane Fasquelle m'a poussé dans mes retranchements. Ça m'a permis de prendre conscience de certaines choses qui étaient sous-jacentes. C'est vrai que moi, je viens d'une famille. J'ai une enfance très très heureuse, j'ai aucun pas de problème, c'était super. Mais c'est vrai qu'on n'allait pas au cinéma. Et puis que moi, j'avais pas le droit de lire des bandes dessinées. Ça donne un écrivain.
Donc une enfance. La Chaux-de-Fonds, c'est ça, tu as grandi à La Chaux-de-Fonds. Oui,
dans les montagnes de Châteloise. J'allais à la bibliothèque des jeunes, mais il y avait le coin des bandes dessinées, et j'avais pas le droit d'y aller.
Oui, et évidemment pas de télévision.
Ah ouais, pas de télévision. La télévision, j'ai eu. C'était un ami, mon père, qui nous avait donné un petit poste. J'avais 14 ans à peu près. Ouais. C'était une noire et blanc. Et on passait la soirée à mettre l'antenne juste. Voilà.
Avant de retirer d'autres fils de ton parcours biographique, qu'est-ce que tu avais envie de dire, malgré tout, sur ces années, sur ces mouvements de missionnaires et de coopérants suisses romands ou européens en Afrique? Parce que, évidemment, que tu dénonces beaucoup une certaine forme d'hypocrisie, tu racontes aussi la difficulté de ces hommes et de ces femmes pour se faire accepter dans ces divers pays africains où ils ont été actifs. Dans le fond, qu'est-ce que tu voulais nous raconter et nous dire de ces gens, de ces femmes, de ces hommes, de ces couples, souvent qui allaient ensemble, au nom d'une religion qui n'était évidemment pas celle des gens qui retrouvaient sur place?
Étonnamment,
c'est un peu sans pitié ce regard, hein, mais.
Mais j'espère pas trop quand même.
Il y a
Il y a un petit regard un peu critique, mais il n'est pas. J'espère qu'il n'est pas. J'espère qu'il est plus ironique que méchant. Parce que, une fois encore, la question n'est pas de critiquer. C'est trop facile de critiquer. Ça serait trop simple. La question, c'est plutôt de poser des questions. Se poser la question, qu'est-ce que faisaient ces gens-là, pourquoi ils le faisaient, quelle est leur motivation et quels ont été les obstacles et les échecs qu'ils ont rencontrés. Alors, je prends l'exemple de mes tantes. J'avais deux tantes qui sont parties, qui ont fait toute leur vie d'infirmière au Cameroun, elles ont fait des choses que moi, je serais incapable de faire. Cette abnégation, cette aide, elles me racontaient des trucs complètement hallucinants de coudre avec du fil de vélo, enfin, faire la chirurgie avec du fil de pêche, enfin, des trucs complètement dingues. Elles l'ont fait. Mais en même temps, quand elles soignaient, dans la hutte, il y avait la famille, les familles des malades, et puis il y avait quelqu'un d'autre qui leur lisait la bonne parole. Et c'est là que tout à coup, on avait le récit de mes tantes. Était un petit peu, sauf que je voyais bien qu'il ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu ce côté-là. Donc, moi, je pose plus des questions. Je trouve très intéressant de remonter un petit peu à toutes ces choses. Parce qu'on parle. Je m'excuse, je bafouille un peu. Le missionnariat, en fait, en soi, c'est aussi une histoire absolument d'une complexité folle. Parce que le missionnariat à la catholique, avec les pierres en dur et puis les soutanes et tout ça, ça n'avait rien à voir avec un certain protestantisme protestant post-colonial, c'est-à-dire un peu sympa, qui n'avait rien à voir non plus avec une autre forme d'évangélisation aussi protestante, qui était, elle, beaucoup plus dure. Il y a eu vraiment...
Et tu décris d'ailleurs une énorme concurrence entre tous ces mouvements. Ça semble être la jungle dans le même village africain. Il y avait peut-être 3-4 types...
Une fois, j'avais coincé une de mes tantes. Il y avait un dispensaire catholique je vous fais la version courte. Il y avait un dispensaire catholique avec un chirurgien tessinois qui était très connu en Suisse et qui pouvait faire des appels de dons qui fonctionnaient très très bien. Il y a même des livres sur ce personnage-là. Et j'avais compris, en regardant la carte géographique, que son lieu de travail était relativement proche de où travaillaient mes tantes. Et une fois, je demande à ma tante, mais tu avais déjà entendu parler de ce monsieur ? Oui. Vaguement. Mais c'est pas vrai. Ils savaient parfaitement, mais ils étaient une concurrence. C'était de la concurrence parce que toutes ces actions-là coûtent. Alors ça aussi, c'est un peu moins... Il y avait toutes ces questions-là. Ils allaient faire le bien, ils allaient annoncer la bonne nouvelle, mais en même temps, il fallait vivre, il fallait construire, il fallait de l'argent. C'était pas de l'argent pour elle, c'était pour construire des maternités, pour avoir du matériel de stérilisation, c'était avoir des nouvelles ambulances. Mais mes tantes, elles transportaient les blessés pendant des 4-5 heures avec des Peugeot, forcément. Marque protestante. Les Peugeot, leur propre Peugeot, pas du tout équipé, rien du tout. C'est une histoire passionnante. Moi, je la trouve passionnante. Peut-être encore plus pour moi qui me présente comme non-croyant, athée, agnostique, mécréant, qu'est-ce qu'on peut dire encore.
Oui. mais justement, qu'est-ce que cet héritage familial a fait au fait de toi? D'ailleurs, oui, je vais te demander de lire un des paragraphes qui résume, en tout cas, le point de vue du narrateur là-dessus. Tu me diras si ça sonne tellement juste que... On ne peut pas se dire que l'auteur n'y est pour rien.
Mais
voilà.
Il y a...
Non, vas-y, lis d'abord. On discutera après.
Le creuset familial avait fait de moi le pire hybride qui soit, un agnostique pétri de valeurs protestantes. La culpabilité et le sens du devoir, sans l'espérance ni la justification. Je suis perdant sur tous les plans. Je prends en pleine face tous les malheurs du monde, mais je crois que prier ne suffit pas. J'essaye de me convaincre que l'homme peut être bon, même si l'humaniste d'aujourd'hui oscille entre la réinvention du communautarisme et la consécration du libéralisme. Je m'efforce de rester un simple renégat, sans cynisme ni amertume.
En quoi ça résonne pour ta propre manière d'être ? C'est un peu toi ?
Oui, c'est un peu moi quand même.
Quand même, d'accord. Merci. Ouais.
Non, mais c'est vrai. Ce qui est amusant, c'est que L'auteur, quand même, il s'amuse des fois, et puis de temps en temps, il met quelque chose qui sort un petit peu. Et puis, c'est toujours intéressant de voir. Là, c'est vraiment très, très, assez évident. Mais j'avais, dans un autre de mes livres, j'avais une petite phrase un petit peu plus assassine, qui sortait un petit peu du. Assassine, enfin voilà, qui disait plus, qui était plus riche en contexte que d'autres. Et un jour, j'étais chez ma mère, et puis j'ai fait ce qu'on ne peut jamais faire, c'est que il y avait un de mes livres qui était là, puis j'ai regardé, puis elle avait souligné cette phrase.
Fine mouche, elle avait tout de suite compris que.
Voilà. Toi, tu as tout de suite compris, effectivement, que ce paragraphe-là, effectivement.
Non, non, mais c'est parfait, comme ça, il suffit de lire un passage, mais pas besoin de répondre à la question sur l'héritage familial et ton propre lien au protestantisme.
Je ne peux pas, j'arrive gentiment à l'âge où on se rend compte qu'on ne peut pas jouer. Cet héritage-là, je l'ai. Maintenant, je dois en faire quelque chose. J'aimerais bien être méchant, hargneux, cupide, tout ça, tous ces trucs-là. Et puis non, je continue de laisser la place au bus. Ouais. Mais c'est une métaphore, mais c'est pour dire qu'on est dans un monde où, avec mes enfants, c'est la même chose. D'un côté, on a envie de leur transmettre nos valeurs, c'est-à-dire la bienveillance, l'écoute de l'autre, des choses comme ça. Et puis, ils reviennent de l'école, et on se rend compte qu'on doit aller. On a meilleur temps peut-être de leur dire des fois de taper, quoi. Taper symboliquement, mais c'est vrai que c'est un héritage qui peut être assez lourd. Là, ça ne se voit pas parce que je fais un peu ce spectacle, mais pour être écrivain, moi, on m'a jamais. Je viens d'une famille, on doit jamais se mettre en avant. On ne doit pas se mettre en avant. Alors, quand on fait un métier, entre guillemets, avec une responsabilité publique, c'est pas facile. Et pour moi, ça a l'air de rien, mais c'est pas facile non plus d'aller. J'aimerais bien être comme Brassens et puis dire simplement, mes livres vivent d'eux-mêmes. La vérité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. On doit les accompagner.
Bon, on va revenir sur ce parcours d'écrivain. Tu es venu, nous demandons à chacun de nos auteurs de venir avec un objet, et là, tu es venu avec un objet, et on va en parler maintenant parce qu'il a un lien avec tout ce qui vient d'être dit. Peut-être tu vas décrire ce que c'est en le levant bien, comme ça. Voilà.
C'est un faux.
Peut-être poignard. Lève-le encore un peu plus haut. Voilà.
C'est un poignard ouvre-lettre qui m'a été offert évidemment par mes tantes du Cameroun. C'est pour ça forcément que je l'ai amené aujourd'hui. Et c'est un ouvre-lettre, et c'est assez, pourquoi j'ai pensé que ça.
Pour ouvrir des grandes lettres alors, parce que c'est un grand poignard. Ouais, hein, quand même, c'est
ouais, pourtant,
bien c'est coupant. Voilà.
Oui, enfin. Ça va, on ne peut pas couper la saucisse sèche. Donc. Enfin, et puis. Mes tantes, mais surtout mes cousins, puis tout le milieu missionnaire que je connaissais, et puis que j'ai connu. Et surtout, c'est là que c'est plus intéressant, aussi ce fameux frère missionnaire dont il est question dans ce livre, envoie très régulièrement des lettres d'information. Ces lettres d'information, elles partent du lieu où a eu l'action, et puis ça raconte le quotidien. Et l'idée, c'est de garder non seulement évidemment un lien avec l'Europe, la famille, mais c'est aussi un peu pour témoigner des bonnes actions qui sont faites sur place. Donc il y a une espèce d'aller-retour. Et dans ce livre-là, on parle passablement de ces lettres que, évidemment, le narrateur lit, et qu'il lit très différemment, puisqu'il, lui, lit entre les lignes et il comprend que c'est des esbroufes. Parce que son frère dit que tout va bien, qu'ils n'ont aucun souci, etc. Alors que lui, il sait par d'autres voies et par d'autres voies que la vie là-bas est très rude, qu'il rencontre quand même quelques échecs dans sa mission, que le couple qu'il a formé avec une pauvre jeune femme qui est prénommée Clara Badlel, il le lit entre les lignes. Et c'est là qu'il y a encore un niveau, parce que j'aime bien faire des livres avec plusieurs niveaux, pas niveaux, plutôt en mille-feuilles. C'est-à-dire qu'il y a le narrateur, à un moment, il travaille aussi dans le monde de l'édition. Il est un rewriter, comme on dit en bon français, c'est-à-dire qu'il réécrit les livres, qu'il adapte les livres. Donc il est très sensible à ce, comme on dit, et au trou qu'il y a dans les phrases. Un autre, à l'intertitre, à l'interlignage, enfin, toutes ces petites choses, aux euphémismes, à toutes les atténuations qu'on peut imaginer, enfin, toutes ces choses-là. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, comme je l'ai dit avant, il y a aussi un problème avec la traduction, parce que le colloque qui a lieu autour de un hommage à ce frère, au frère disparu, est bilingue. Et il y aura quelques soucis avec la traduction, qui permet de faire un lien aussi, évidemment, avec une des missions prioritaires des gens qui partaient en Afrique, en tout cas, c'était d'aller sur place traduire la Bible. Parce que c'était ça. Et ma tante, une de mes tantes, avait une vieille Hermès qu'elle avait trafiquée pour transformer les marteaux pour pouvoir réécrire certains passages de la Bible dans l'idiome local. Et c'est un travail de fou. Moi, j'ai retrouvé dans les archives, parce que mes deux tantes sont décédées, et c'est moi qui ai récupéré, après avoir écrit le livre, hein, je précise, j'ai récupéré des archives écrites, des centaines de diapositives, des milliers de diapositives, enfin, un matériau hallucinant.
Dont la fameuse machine à écrire.
Non, elle avait disparu, celle-là. Elle a dû rester, je pense, au Cameroun.
Ouais, ouais. Bon, bah, merci. Est-ce que tu l'utilises, ce poignard ouvre-lettre ?
Non.
Non, bon. Merci d'être venu avec cet objet. Tu es aussi venu avec une musique. Hein, nous demandons à chaque auteur aussi de nous proposer un morceau de musique. On va en écouter un extrait et tu nous expliqueras pourquoi. Et puis, ça fera le lien un peu avec la suite de la discussion. Bon, c'est Astor Piazzolla, évidemment. Pourquoi ? Et déjà, c'est quel morceau et pourquoi celui-là ? Évidemment, on a juste envie de se précipiter chez soi et réécouter pendant une heure du Piazzolla. C'est très beau. Merci, hein, d'ailleurs.
Oblivion, ce morceau.
Oblivion.
Oui,
l'oubli.
Oui. Pourquoi ce morceau ? J'aime beaucoup la musique. J'écoute toutes sortes de musique. J'en pratique.
Pratique, c'est-à-dire ? Tu joues d'instruments ?
Oui, je fais. Je joue de la guitare, un petit peu de basse, je chante.
Je ne sais pas s'il y a un instrument honteux qu'on n'ose pas dire qu'on en joue,
non,
mais.
Je fais du bruit avec des copains dans un local pourri qui sont moisis.
Oh là là.
Mais c'est nos amis jeunesse qui remontent là.
Tu mourras protestant jusqu'au bout des ongles. Tu joues de la guitare.
De la basse.
La basse, d'accord.
Il cherche un bassiste, j'ai dit, je ne sais pas jouer, il me dit tout. Pour que tu payes le loyer. Non, et puis alors, on joue des trucs, on joue très fort, très faux, mais c'est pas le
bon. Ça détend.
Ça détend énormément. Et puis c'est très chouette parce qu'on est en fait une équipe, petite parenthèse après je reviens sur la de là, mais c'est parce qu'on est un chouette groupe, parce qu'il y a un libraire, il y a un prof de français, il y a un bibliothécaire et puis il y a moi.
Donc en gros, les intellos s'amusent.
Ah, oui, c'est ça parce qu'on parle musique, puis forcément, à un moment donné, on dérive sur la littérature et puis c'est...
Ouais. Donc, voilà. Alors Piazzolla, pourquoi c'est...
Piazzolla. Alors parce que j'aime énormément Piazzolla.
Depuis toujours, c'est...
Pas depuis toujours. Je pense qu'à un âge, ça fait un peu vieux, Mais je pense qu'il y a un moment où j'ai découvert, et puis je l'ai découvert par Dino Saluzzi, en fait. J'ai découvert d'abord l'instrument, le mandoneon, et ensuite ça m'a amené à Piazzolla et tout le tango. Pourquoi Piazzolla? Pourquoi ce morceau? Pourquoi? Alors, c'est assez compliqué. Mais il y a une explication, une piste qui convient un peu à notre rencontre, c'est que j'ai le sentiment que derrière un livre, il y a souvent une sorte de question qu'on se pose, ou que l'auteur se pose, et autour de laquelle il travaille, il construit, il bâtit son édifice narratif. Et il y a quelques années, j'ai publié un livre qui s'appelait « Les temps ébréchés », qui racontait l'histoire d'une trentenaire qui perd l'audition en quelques mois parce qu'elle est atteinte d'un syndrome qui existe mais qui n'est pas nommé. Et elle décide à ce moment-là de se constituer une bibliothèque sonore très rapidement, donc en allant dans des lieux sonorement symboliques, un chantier, une piscine couverte, bétonnée, une discothèque, etc. Et puis elle décide aussi, dans l'urgence, d'apprendre les rudiments du solfège. Bon, ça c'est le résumé du livre. Une des questions que je me posais quand j'écrivais ça, c'est mais qu'est-ce serait ma vie si moi je ne pouvais pas entendre Piazzolla, ce morceau-là qui moi me bouleverse et qui continue de me bouleverser, quelle que soit les interprétations. Là, on en a une de Richard Galliano. Ça, c'est un private joke, il y a toujours des private jokes, même dans les livres comme ça. Un private joke, c'est parce que Galliano a travaillé avec Alain Leprest, ils ont fait un magnifique album.
Sur lequel tu as écrit un livre.
Voilà, j'ai fait la biographie d'Alain Leprest il y a 15 ans maintenant. Donc voilà, c'est des trucs comme ça m'amusait d'avoir.
Ton réseau personnel qui se cristallise. Voilà. Comme ça.
Et puis, c'est intéressant parce que ça m'a fait plaisir pour parler un peu de musique, parce que dans ce livre, il y a moins de musique. Parce que justement, en tant qu'auteur, on doit se donner des règles du jeu un peu différentes à chaque fois. Alors, comme mes précédents ouvrages étaient très musicaux, ben celui-là, il est plus cinéphile. Il y a beaucoup de références au cinéma, mais beaucoup moins à la musique. C'est voulu, c'est comme ça, c'est pour changer. Mais ça m'a fait plaisir.
Oui, alors que d'habitude, d'habitude, tu t'amuses beaucoup avec la musique. Hein, dans Les temps ébréchés, mm-hmm. Tu t'amuses avec un morceau de Keith Jarrett, un morceau qui s'appelle 17 octobre 1988. Mm-hmm. Et chacun des intitulés de chapitres de ton livre Les temps ébréchés reprend, je crois, la première note de ce morceau de Keith Jarrett, c'est ça?
Oui, exactement, ta voilà. Partition, effectivement. Oui. Puis il y a un jeu aussi avec les dates, enfin il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas nécessaires pour le lecteur. C'est juste l'auteur qui
se fait plaisir.
Mais ça a du sens parce que le récit arrive effectivement, là on peut le dire parce que ce livre-là, je ne le disais pas à l'époque où il est sorti parce que j'avais envie que les gens le découvrent eux-mêmes. Mais maintenant, effectivement.
En fait, personne n'a compris, en fait. T'as essayé de faire. Personne t'a dit merci pour ce bel hommage à Keith Jarrett.
Non. Non. Non, mais c'était pas grave. Non, mais c'est vrai que les temps bréchés se terminent le 17 octobre. Voilà.
Ouais. Bon, ben, merci. Nous sortons désormais beaucoup plus intelligents de cette rencontre. Moi, j'aimerais comprendre comment t'es arrivé à l'écriture, parce que tu as fait une scolarité plutôt scientifique, une maturité. Économique, ensuite un doctorat en psychologie. Donc, comment es-tu arrivé à l'écriture? Est-ce que par la lecture, par autre chose? Est-ce que c'est quelque chose d'ancien ou qui est arrivé dans ta vie d'adulte plutôt?
Non, c'est très ancien. En fait, il n'y a pas eu de moment déterminant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens d'une famille où la lecture était à peu près le seul loisir, divertissement qui était. Autorisé, c'est trop fort de dire comme ça, mais enfin c'était ça qu'on faisait. Mon père le week-end s'occupait de son jardin potager et moi je lisais, donc j'ai lu énormément. J'étais un de ces petits garçons qui va, ou ces petits enfants qui va à la bibliothèque des jeunes, qui reprend le maximum de livres puis qui les lit en rentrant à la maison. Et à la maison, ben mince, il faut retourner. J'ai passé des mercredis et des samedis merveilleux à la bibliothèque des jeunes de ma ville. J'ai toujours été entouré des livres et des choses comme ça. Et puis, forcément, c'est un peu comme quand on regarde beaucoup de foot, on a envie d'un moment de taper dans le ballon. Moi, mes rédactions à l'école ont commencé à être un petit peu plus longues, des fois trop longues, pas forcément intéressantes d'ailleurs. Souvent, j'avais des enseignants qui me disaient qu'on fait trop. Mais voilà, c'était assez entre guillemets naturel. Le livre en tant qu'objet, puis la lecture et tout ce que ça, la lecture et l'écriture, pas inversement, offrent, me sont des outils qui m'ont toujours été familiers. Et ensuite, effectivement, j'ai fait des études et des études universitaires assez longues. Et qu'est-ce qu'on fait à l'Uni ? Eh bien, on lit et on écrit. Donc, en fait, sauf si on est en biologie où on fait d'autres petites choses, en médecine où on fait d'autres choses. Mais en tout cas, moi, j'étais dans les sciences humaines et je me suis spécialisé en histoire histoire de la médecine. Là, dans l'histoire de la médecine, on lit. On lit, on réécrit, on ré... Donc, en fait, j'ai fait...
Mais ensuite, le pas vers la fiction, parce que ça, c'est encore autre chose. On peut écrire des essais, des thèses. D'ailleurs, tu as écrit des essais, plusieurs essais, liés notamment à l'histoire de la médecine. Mais le pas vers la fiction.
Le premier pas, c'était un copain qui m'avait demandé un texte pour le théâtre, tout bêtement. Et puis, ça a bien marché. Alors, on m'en a demandé un deuxième. Et puis là, c'est la même chose pour pourquoi littérature ? Puis on me demande, ça se renforce. J'ai des projets d'essais en route, j'ai des choses comme ça qui traînent dans mes tiroirs, mais j'ai des lecteurs pour mes romans.
Tu es publié chez Grasset en fait depuis 2012. Ça fait le quatrième livre chez Grasset. C'était Même en terre en 2012. Avant, c'était L'âge d'homme, c'était Jet d'encre. Qu'est-ce que ça change d'être publié chez un éditeur parisien avec une belle réputation comme Grasset ? Alors déjà, c'est les lecteurs français, évidemment.
Alors, d'abord, c'est un accès à un lectorat très différent. Pour moi, c'est extraordinaire parce que ça me permet de travailler dans des très bonnes conditions, c'est-à-dire Grasset, c'est une grande maison d'édition, donc il y a quelqu'un qui s'occupe de certaines parties du processus d'édition de livres. Comment le dire ? J'ai une attachée de presse sur Paris, j'en ai une autre pour la province suisse, le reste du monde.
Oui, c'est toujours comme ça dans les mêmes éditions. Il y a Paris et il y a la province.
Mais ça veut dire que c'est des gens, c'est leur job de faire ça. Il y a des gens dont c'est le job de faire la quatrième de couverture. Il y a des gens dont Alors, c'est pratique parce que moi, ce qu'on me demande, c'est de faire au mieux mes petites écritures. L'idée, c'est de me libérer de tout ce qui est. Inversement, ça m'est arrivé de faire l'autre, d'être de l'autre côté, et puis avec beaucoup de bonheur, aux éditions Jet d'encre, j'ai publié avec un titre qui s'appelle La Fanée, qui était un livre très, très dur. Et c'était alors exactement l'inverse. J'ai travaillé avec Catherine Louis, qui avait fait des illustrations, donc illustratrice pour la jeunesse, mais là, elle faisait. Pas du tout pour la jeunesse, pas du tout un livre pour la jeunesse. C'était vraiment avec l'éditeur, qui est Louis-Georges Gasser. J'ai eu la chance d'aller choisir le papier, la typographie, on avait tout fait. Et ça, c'est aussi une expérience extraordinaire.
De pouvoir se mêler de toutes les étapes.
Tout.
Là, ils t'ont pas demandé si tu voulais effectivement changer de couverture jaune. Hein, c'est jaune pour tout le monde chez Grasset.
Chez tout le monde. On a pas mal négocié pour le bandeau. Moi, je voulais... J'avais une image extraordinaire d'un baptême dans un creux de boue que j'ai trouvé dans les diapositives de mes tantes. J'espérais qu'on ait une jaquette. On s'est rabattu sur le classique portrait de l'auteur.
Oui, alors c'est vrai que ça doit être difficile à supporter pour un protestant d'avoir... D'habitude, quand on l'achète, il y a un bandeau, effectivement, avec une jolie photo de Thomas Sandeau, que la librairie Basta vous proposera. Non, mais c'est très bien, alors je te rassure.
Oui, alors c'est mon frère, justement, qui joue la batterie dans le groupe, là. Il m'a dit, débrouille-toi pour avoir toujours ta photo sur un bandeau. Parce que lui, en tant que libraire, il voit très bien les gens, comment ils passent. Alors il y a d'autres systèmes que moi j'aime bien, par exemple les bandeaux où il y a le début du texte. Moi en tant que lecteur j'aime bien, ça m'évite de prendre le livre, je vois tout de suite si ça me donne envie de lire la suite de la phrase. C'est les grands, généralement poches qui font ça. Bon, évidemment, on voudrait tous avoir notre photo, plus 100 000 lecteurs ont déjà aimé. ça, c'est le sommet.
Ça viendra. Alors, aujourd'hui, ta vie est entièrement tournée vers le monde du livre, notamment ce mandat effectivement, de médiation littéraire à la bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds, mais aussi tu assures la coordination régionale du projet Roman d'école, ce beau projet qui fait dans le fond des écrivains, des romans, visite des classes et aide les élèves à coucher de leurs propres romans. C'est à peu près ça. Et puis ensuite, tu fais des ateliers. Oui. Sur les romans d'école. Sur les romans d'école, tout à fait. Oui.
Non, parce que pas confondre, il y a dans la salle pas mal de gens qui connaissent, vous connaissez le roman des romans.
Ah non, ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir, même si le nom ressemble. Roman d'école, c'est un projet génial. Ça consiste à on met un écrivain professionnel dans des classes d'adolescents en fin de scolarité, généralement fâchés avec l'école, et le français, voire les deux, généralement les deux. Et ils ont 8 fois 2 périodes pour collectivement, attention, construire un récit cohérent. C'est pour ça qu'il y a un auteur. Et le prof est loin. Et il y a la salle des maîtres, parce qu'on ne veut pas de prof dans la salle. Parce qu'on ne fait pas d'orthographe, on ne fait pas de grammaire, on fait la fiction. On essaye de trouver des solutions pour passer des idées à une forme écrite. Et cette forme écrite, ensuite, ces jeunes-là doivent l'assumer jusqu'au bout parce qu'ils doivent lire leur texte lors d'une séance publique dans un lieu qui n'est pas scolaire, évidemment. Aussi, c'est des enjeux et ils doivent lire leur propre texte. Ceux qui ne savent pas bien lire, ils lisent un tout petit bout, puis ceux qui ont plus d'aisance, etc. Et ça, c'est un projet génial parce que c'est plein de strates, plein de choses qui se passent de ce moment-là. Ça existe aussi dans le canton de Vaud, et Clergeux notamment, qui a accompagné des classes. Si vous voyez une fois lecture publique, roman d'école, allez-y, c'est très touchant.
C'est vrai que c'est un projet.
Mais ils racontent leur propre histoire. Et c'est des histoires généralement qui éclosent au sein de la classe. Comme nous, on ne fait pas partie du système scolaire, on est juste dans la classe parce que c'est plus pratique de déplacer un auteur que 15 élèves. Mais il se dit des choses des fois et il apparaît des choses.
Oui, c'est un projet effectivement fantastique. Mais je voulais en arriver à la question suivante, dans le fond, que ta vie est entièrement tournée vers les activités autour du monde du livre. Tu fais aussi des ateliers, des relectures, enfin des ateliers d'écriture, diverses animations. Dans le fond, est-ce que c'est la vie dont tu rêvais enfant ou adolescent, ado, hein, cet ado de La Chaux-de-Fonds, il se voyait comment plus tard, quand il serait grand, très grand
J'ai beaucoup, beaucoup de chance, moi, parce que j'ai réussi effectivement à organiser ma vie autour de l'écriture sous plein de formes. Alors effectivement, peut-être que quand j'avais 20 ans, je me voyais juste écrivain, et la vérité, c'est que ce n'est pas possible. Là, l'épreuve de réalité est plus forte. Mais ça ne fait rien, j'ai quand même réussi effectivement à faire que l'objet livre, ou bien tout ce qui est lié à la littérature ou l'enseignement de la fiction, moi je suis un grand défenseur de ce qu'on appelle la psychologie populaire, c'est-à-dire toutes les études du sens commun, tout ce qui va autour du sens commun. Donc tous les ateliers, tout ce que je fais là, ça a une importance aussi. C'est pas simplement, c'est pas accessoire à mon travail d'écrivain. Tout ça se nourrit de façon un peu, oui, c'est une sorte de patchwork, mais les pièces sont des fois un petit peu. Disons, c'est pas. Il y a certains jours où c'est pas difficile de passer d'un dossier à l'autre en une minute, parce que c'est comme des horizons, des ambiances, des objectifs très différents. Mais non, j'ai énormément de chance. Et puis, j'ai cette chance. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Alors là, ce n'est pas le discours de la plainte. Mais effectivement, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que je gagne. Je l'ai dit, c'est pour ça que je le reprends, parce que Bruxelles l'a écrit dans le 24 heures. C'est vrai, moi, je ne sais pas ce que je gagne au mois d'avril. Mais c'est un choix de vie et c'est une espèce de liberté. Et puis, en fait, honnêtement, je peux rebondir. Je n'ai pas à plaindre. Ouais. Au contraire, je suis reconnaissant. Alors, ça, c'est un terme très protestant, mais je suis très, très reconnaissant tous les matins d'avoir la chance de pouvoir m'occuper de mes enfants, de faire le déjeuner, tout ça. Et puis après, d'avoir chaque jour quelques heures, soit pour lire, soit pour écrire, soit pour avoir des projets Là autour,
Bah, tu es marié à une écrivaine, Laure Chapuis, qui a publié 3 romans chez D'autre part. C'est mieux pour un auteur que de vivre avec un autre auteur. Un autre auteur est le seul à même à comprendre, enfin, d'avoir une femme qui comprend que tu y passes des heures et des heures, que tu as besoin de finir le chapitre avant de venir manger. C'est ce genre de choses. C'est ça, vivre ensemble quand on est deux auteurs.
Alors, elle n'est pas auteur au même sens que moi, parce que pour elle, c'est moins primordial. C'est moins son identité. Moi, c'est plus une question d'identité. Donc, elle le fait quand il y a des circonstances favorables. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? On se l'éparmille. Donc, on boit l'apéro.
Elle est à...
On boit l'apéro avant et on se l'éparmille après. Parce que ça peut être tendu. Mais non. Mais
tu veux dire qu'elle est ta première lectrice?
Oui, c'est ma première lectrice. Oui.
Et sans pitié?
Sans pitié. C'est... Alors, je vous raconte ça. C'est vrai. C'est encore pire qu'à rien, ça se fait. Non, mais mon épouse, mais là aussi, j'ai une chance extraordinaire, même si ça peut être... un jour, je reverrai avec un manuscrit, une espèce de roman policier. J'avais envie d'essayer un roman policier pour une fois. Un peu à la... non, je ne vais pas lire pas l'imitation, parce que justement, ce n'était pas du tout ça. Maintenant que je le raconte, il y a un point commun. Je donne le manuscrit, 6 mois de travail, au minimum. Hein, donc, ça, et j'entends qu'il soupire, premier paragraphe. Et ça, il fait comme ça, puis il dit, mais c'est sandosisme. Sandosisme,
c'est éthique d'écriture, c'est ça.
D'écriture. Et alors, donc ce manuscrit a passé à la poubelle le soir même, comme ça.
Off. Oui, mais peut-être qu'Ariane Fasquelle aurait aimé si elle...
Si mon épouse n'aime pas, je ne pense pas. Non, je pense... Non, je pense être...
Mais c'est terrible, et ce n'est pas une cause de divorce, ça.
Non, parce que... effectivement, parce que si ça ne passe pas à elle... auprès d'elle, qui me connaît, qui connaît justement mes biais, qui connaît mes rages, mes jalousies, mes maîtres, mes maîtres à penser ou mes maîtres à écrire, elle sait tout ça, elle sait à quel moment je suis en train de singer quelqu'un, ou à quel moment j'essaie d'imiter, à quel moment je fais du sando, tout ça, elle le voit très bien, donc c'est très important d'avoir ce regard, c'est très précieux. Mais je pense qu'au-delà d'écriture, il y a un autre truc que je dis comme ça pour rire, mais... elle n'est pas écrivain, mais elle est latiniste. Alors, avant le premier apéro, on se regarde, puis on se dit, lequel de nous deux va disparaître en premier? L'écrivain ou le latiniste, ou la latiniste? Parce qu'on est les deux dans des métiers... peut-être qu'on est le dernier représentant d'une...
Ouais.
Scénariste, il n'y a pas de problème. Raconteur d'histoire, il n'y a pas de problème. Il y a des tas de métiers liés au livre, ou à la... C'est comme ça. Mais écrivain avec du papier en dur...
Ouais. Bon, sur ces paroles optimistes, je te propose de passer la parole à notre public pour des questions, des remarques à Thomas Sandoz sur ce qui a été dit ou qui n'a pas été dit. Qui se lance? Levez juste la main et puis parlez fort, on entend, je pense. Voilà.
Oui. On en reparle à l'apéro.
Voilà. Donc la question de l'éducation de ses propres enfants.
Non. Bignon. L'éditrice elle était toute contente. Évidemment, elle a accompagné, c'était un des derniers livres qu'elle a pu suivre. Elle était contente qu'on ait trouvé une solution pour cette histoire. Et puis pour l'éducation, eh bien, je retransmets les mêmes valeurs. En fait. Elle est un petit peu atténuée parce qu'effectivement, j'ai un enfant des années 80, donc on est plus d'imboum à la maison, il y a plus de musique.
Bon, ils ont le droit de lire des BD.
Ils ont le droit. Je leur achète même des BD, c'est dire. Non, alors c'est beaucoup plus souple, mais il y a un certain nombre de valeurs qui sont ancrées et qui, en fait, je transmets tout à fait volontairement. Ils ont suivi l'éducation religieuse En tout cas, hein, jusqu'au moment où on leur a fait faire des trucs tellement débiles. Que... Ouais. Hein.
Bon, je crois qu'il n'a pas envie d'en dire plus.
Non, mais c'est un milieu, c'est une métaphore, mais c'est des choses qu'on retrouve un peu dans le livre, ça pourrait vous donner envie d'aller... Et on ne retrouve pas cet exemple, mais dans certains milieux, on met une banane au milieu d'enfants assis en rond pour leur dire « il n'y a qu'une banane pour le monde entier ». Et c'est culpabilisant et c'est terrible. Dans certains milieux évangéliques que je connais, on donne une banane à chacun des jeunes, on leur dit « tu vas la donner à quelqu'un dehors ».
Bon, qu'est-ce qui est mieux alors?
Bon,
qui d'autre? J'ai vu une autre main. Ah ben, madame.
Moi, j'avais envie de poser encore la question sur la question. Vous disiez, quand on écrit, on répond à une question.
Oui.
On a très bien compris avec l'exemple de votre livre.
Oui.
Mais si vous deviez résumer, parce que moi, franchement, je n'ai toujours pas bien compris ce que vous vouliez questionner et quelle réponse vous vouliez donner. Parce que j'ai lu ce livre un petit peu avec du malaise. Ça m'a fait cette sensation de me dire, est-ce que c'est règlement de compte? Est-ce que c'est biographique? Alors, vous avez bien répondu à l'histoire de l'histoire, mais je reste avec ça. Si vous pouviez en une phrase dire à quelle question vous vous êtes attaqué?
Oui, c'est tout simple, c'est comment faire le bien? Comment peut-on faire le bien? Et l'idée, c'est de montrer qu'on peut... faire le bien en allant à l'étranger, en faisant des actions médicales, dans des circonstances ou des contextes très difficiles, mais qu'on peut aussi faire le bien en portant les commissions de sa voisine qui est malade. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Moi, je donne pas de réponse. C'est pas un livre à thèse ce sens-là. Sinon, j'aurais raté. J'espère pas avoir fait ça. Sinon, j'aurais raté mon objectif. C'est pas un livre à message. C'est plus un... J'espère que... Je l'ai fait pour que ce ne soit pas un message. Mais c'est comment on fait. L'enfer n'est pas les bonnes intentions, ça c'est le sous-titre de cette question-là, mais comment on fait le bien y a plein de façons. Et des façons anodines, discrètes, invisibles, au quotidien. Au niveau de sa famille, on peut faire énormément, mais des fois, il y a d'autres personnes qui sont extrêmement efficaces et utiles et nécessaires parce qu'elles sont loin, et qu'elles vont ailleurs. En fait, la question, c'est vraiment... c'est la question de l'altruisme, en fait. C'est pour ça que la première phrase de la quatrième est une des plus importantes du livre, en fait. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Voilà, c'était ça. C'est une citation. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Me sermonnait sans cesse mon frère. Convaincu que son propre chemin était le meilleur.
Ouais. Merci. Tout au fond. Le titre, Croix de bois, croix de fer.
Croix de bois, croix de fer, c'est moi qui l'ai choisi. Il fait allusion à... Évidemment, il y a un jeu de mots, d'accord, croix de bois, croix de fer, évidemment, quelque chose de solide, quelque chose de moins stable. Et il y a... c'est une petite... J'allais dire comptine, mais c'est trop long, trop court pour une comptine, mais c'est une espèce d'expression d'enfance qu'on doit continuer. C'est un titre suspendu, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Et si je mens, il y a la question du mensonge, puisque l'idée du narrateur, c'est de dévoiler une forme de mensonge. C'est la géographie du frère. Et tout ce qu'il a construit de mythification et de mystification. Et je ne vous en dis pas plus, parce qu'à l'intérieur, il y a encore un autre problème, c'est que le frère dont il est question, donc le missionnaire, il a aussi un trajet de vie qui n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Et les gens dans le colloque qui fait le décor ici, n'en sont pas conscients non plus. Donc il y a la question de mensonge, et puis enfer, évidemment, le jeu de mots est très simple. Qu'est-ce qui se passe si on échoue?
Merci. Mélissa.
Ouais. Le personnage du missionnaire,
plus fort.
Lui, pris individuellement, on retrouve. J'ai le sentiment qu'on retrouve dans ce parcours de vie, ce désir d'absolu, qu'on retrouve chez pas mal de défenseurs de causes
oui.
Absolues, pris en permanence entre son désir d'absolu, de
oui.
Réussir.
Oui.
chez le frère missionnaire. Oui, mais c'est parce que la mère.
Oui, alors la question est très précise, mais la mère, en fait, elle est trop passive, à la fois pour le narrateur et pour le frère, qui, lui, comme vous le dites très bien, va dans l'extrémisme. Il est persuadé qu'il fait juste. Et c'est pour ça qu'il est aussi intolérant par rapport à son frère et au reste du monde, et par rapport à son épouse, et par rapport à tout le monde, et par rapport aux gens qu'il accueille au Tchad où il va travailler. Effectivement.
Tout le monde le déçoit.
Oui, mais ça peut être comme ça quand on a des absolus.
Mais c'est, ouais. C'est une caractéristique que je trouve assez facilement, aussi bien dans l'extrême gauche que dans l'extrême droite, chez les croyants de nombreuses causes.
Oui,
c'est
oui.
Comme s'il y avait.
Alors tout à fait. Et puis il y a une petite métaphore là, parce que là on a choisi le contexte missionnaire, mais évidemment que là, beaucoup de gens qui partent actuellement avec des ONG ou des choses comme ça, ont des fois une vision un peu. Alors c'est pas. Vous avez peut-être vu la série Kabul Kitchen. C'est pas Kabul Kitchen, mais il y a quelque chose dans cette espèce de confrontation entre les grands idéaux et les grands départs et la grande volonté, des fois tout à fait sincère, hein, c'est ça le problème. C'est la sincérité, vous arrivez avec une sincérité, une envie d'aider le prochain, son prochain ou le prochain, et puis ça ne se passe pas comme ça, parce que des fois le prochain n'en a pas besoin, n'a pas envie, n'a pas envie d'être aidé, n'a pas envie d'être soutenu, et puis il y a les circonstances qui font que c'est plus compliqué. C'est quasiment du cas par cas.
On va encore prendre deux questions brèves, monsieur.
Contrairement à ce qui a été dit auparavant, moi j'avais compris que vous avez voulu évoquer l'aspect anthropologique. Parce que de nos jours, on reconnaît que la physiologie et l'anthropologie vont de pair. Vous venez de dire que faire le bien sur place, etc., le personnage de notre roman devrait être aussi délégué par trois rouges. Mais c'est vrai, la physiologie et l'anthropologie vont de pair et qu'avec le temps, elles étaient parfois contradictoires, dominantes, etc. Mais peut-être que vous ne l'avez pas vraiment évoqué dans l'anthropologie.
La question anthropologique, est-ce que si je dis sociologique, ce n'est pas la même chose ? Pas tout à fait. Alors la question anthropologique plus profonde. J'espère que je réponds à votre question. Mais il y a un personnage qui est Rudy, par exemple, qui lui est qui est un père spirituel, enfin qui sera le parrain, qui sera l'ami, qui lui par exemple s'intéresse aux coutumes et aux us et aux usages des populations dans lesquelles il voudrait transmettre la bonne parole et la bonne nouvelle, et il s'y intéresse pour mieux les démonter. Il y a cette dimension là par moment, mais je pense que c'est pas tout à fait ça que vous voulez dire. Oui, oui. Alors il y en a des fantastiques, oui. Bien sûr. Des fois, c'était voulu. Bon, anthropologue, même botaniste, enfin, il y a eu des savants qui sont allés. La collection de diapositives de Médan, par exemple, montre des coutumes qui ont disparu maintenant. Des rituels de passage qui ont disparu depuis 40 ans. Donc, effectivement, un certain nombre de ces missionnaires, souvent, étaient d'ailleurs très cultivés quand ils y allaient. Ce qui n'est pas le cas du frangin. Là.
Ouais.
C'est voulu, c'est un petit peu, justement. Mm.
Merci, on va prendre une dernière question en remarque. Qui ? J'avais vu d'autres mains se lever. Je suis surtout pas découragée. La dernière, voilà. Bon, si ce n'est pas le cas, une manière de faire le bien, c'est de ne pas repartir sans au moins un ou deux livres de Thomas Sandeau. La librairie Basta est venue avec les quatre titres publiés chez Grasset. Ils sont tous très très bien. Moi, un de mes préférés, c'est Même en terre, en plus de Croix de bois, Croix de fer. Et puis, donc, merci à Basta d'être fidèle au poste et venir avec les titres. Thomas Sandeau va se mettre ici pour les dédicaces et puis poursuivre la discussion avec certains d'entre vous qui voudraient la poursuivre de manière plus privée. Et puis, il est temps de passer de l'autre côté au salon où nous attend le buffet préparé par les Arches. Merci beaucoup pour votre présence et votre fidélité. Et puis Thomas Sandeau, merci beaucoup de votre présence ce matin.
Merci. Voilà. Merci.